Voilà, merci de rester avec nous, disons, et surtout merci de nous faire confiance, hein, d'accepter d'ailleurs de faire ce voyage à travers le pays avec nous. Nous allons juste, après avoir été à Bukavu, faire peut-être un tour du côté de différentes universités du pays. Bon, on va les faire d'une manière simultanée, ou simultanément donc, avec Dr Macha Komamba, ministre de l'enseignement supérieur universitaire. Il faut noter qu'en République démocratique du Congo, bon nombre d'établissements d'enseignement supérieur et universitaire vont bientôt être fermés. Cette décision fait suite au non-respect des conditions requises en matière de fonctionnement de ces institutions. Selon le ministre de l'enseignement supérieur et universitaire, ces universités et instituts supérieurs sont dépourvus d'infrastructures de base et ne disposent pas de professeurs qualifiés. Comment cette mesure va concrètement être appliquée sur le terrain? Nous avons dans ce studio Tati Mapoukou. Bonjour Tati.
Bonjour JR.
Alors, vous vous êtes penché sur la question. Qu'est-ce qui a motivé le ministère de l'ESSU à envisager une telle décision?
En fait, le ministère de l'enseignement supérieur compte mettre de l'ordre dans le secteur de l'enseignement supérieur et universitaire parce que plusieurs institutions académiques qui sont opérationnelles à Kinshasa comme dans les provinces accueillent les étudiants dans des conditions qui laissent à désirer. Certains sont même dépourvus des locaux pouvant accueillir les étudiants. Même s'il faut prendre les cas des universités qui en possèdent, il est pratiquement impossible aux étudiants de suivre les cours comme il se doit suite au surnombre des candidats que ces institutions accueillent chaque année. Il faut noter hier que presque toutes les infrastructures de ces institutions ne suivent pas l'expansion démographique des candidats qui sollicitent les inscriptions dans ces universités. En outre, le pays ne possède que 1400 professeurs qualifiés dont la plupart ont atteint l'âge de la retraite. Voilà quelques raisons hier qui justifient la décision de la fermeture de certaines universités.
Est-ce que nous pouvons avoir une idée sur le nombre des universités et instituts supérieurs qui existent dans notre pays?
JR, selon les enquêtes entreprises par le ministère de l'enseignement supérieur et universitaire, à ces jours, la RDC compte plus de 1000 institutions académiques. Pour la petite histoire, en 1960, notre pays n'avait que 3 établissements qui assuraient la formation universitaire avec un budget annuel de 30%. Mais aujourd'hui, ces 1000 universités fonctionnent avec un budget annuel de moins de 2%.
Alors, vous avez fait une descente dans quelques universités de la capitale. Comment les étudiants ont accueilli cette nouvelle?
Il faut dire que c'est une nouvelle qui défraie la chronique dans presque toutes les universités publiques et privées de Kinshasa. Nous étions par exemple à l'Institut supérieur de statistique qui était sans sigle pour avoir l'opinion des étudiants sur cette décision. À en croire les quelques étudiants que nous avons interviewés, la décision est à la fois bonne et mauvaise.
Mais pourquoi?
Tout simplement parce que l'État n'a pas d'institutions académiques pouvant satisfaire toutes les sollicitations des jeunes qui aspirent à devenir un jour des cadres de ces pays. D'ailleurs, c'est ce qui justifie la prolifération des établissements supérieurs et universitaires privés dans l'ensemble du pays. C'est ce qui leur fait dire que c'est une décision qui est à la fois mauvaise et bonne parce que ce sont les étudiants de ces établissements qui seront pénalisés. Suivant ce que pensent ces quelques étudiants.
Il peut avoir raison sur certains points, parce que quand il a cité les coins de la République, là où il est difficile pour un professeur d'arriver surtout, dans des coins pareils où même les examens, les centres d'examen d'État n'existent pas. Et on se pose la question, comment une université ou un supérieur peut exister? Comment un professeur peut quitter, par exemple, Kinshasa pour arriver dans des coins où il faut se rendre par pirogue 2-3 jours? C'est ça la grande question qu'on se pose. Par rapport au nombre de professeurs que nous avons au pays, par rapport au nombre, il est difficile pour certains points qu'on arrive à avoir un enseignement de qualité.
C'est une université privée, c'est une université. Ils ont eu l'autorisation du ministre de l'enseignement supérieur et universitaire. Ça veut dire que pour avoir l'arrêté aujourd'hui d'exister comme université, il y a les préalables qui sont définis. Il est supposé que ces universités, avant d'avoir cet arrêté, ont répondu à certains préalables. Je vois mal aujourd'hui d'emblée dire qu'on ferme ces universités parce qu'ils ne répondent pas aux normes. Et c'est quand ils ont eu les arrêtés, ils n'avaient pas répondu aux normes. Bon, nous pensons qu'il faut aménager ou assainir les milieux universitaires. C'est vrai. Il a raison, mais le faire brusquement, nous ne pensons pas. Il doit le faire progressivement. Si, d'une part, il va faire que le milieu universitaire soit assaini en fermant les universités qui ne répondent pas aux normes, il doit préparer les universités qui répondent aux normes en élargissant la capacité d'accueil pour recevoir ceux qui sortent des universités-là qui ne répondent pas aux normes, parce qu'ils ont besoin d'aller à l'université.
Alors, Tati, qu'est-ce qui justifierait cet engouement de plus en plus des jeunes à l'université, même dans l'arrière du pays?
Gérard, votre préoccupation est très pertinente. C'est parce qu'il n'existe pas dans notre pays une bonne politique d'orientation des jeunes dans la formation technique et professionnelle. En RDC, 90% des jeunes qui finissent les études secondaires rêvent à tout prix poursuivre leurs études universitaires. À l'époque, c'était faisable avec les 3 universités nationales et quelques instituts supérieurs qui sont disséminés à travers la République, mais avec l'explosion démographique de nos jours, ces institutions ne sont plus en mesure d'accueillir toutes les demandes. C'est ainsi que les initiatives privées dans les secteurs ont une importance capitale, même dans l'arrière-pays, parce que tout le monde rêve de devenir universitaire. Écoutons ce que pense cet étudiant à ce sujet.
Il y a 20-30 ans passés, tous les cadres de ces pays ont été formés dans des universités publiques et qui se retrouvent dans des grands centre du pays. Il y a eu l'université de Lubumbashi, à l'époque Naza, il y a eu l'université de Kinshasa, Luvanium à l'époque, il y a aussi l'université de Kisangani. Et ces universités étaient placées dans les coins stratégiques du pays de la manière où tous les étudiants du bloc ouest, c'est-à-dire Bandundu, Bakongo et les environs, pouvaient facilement venir à l'université de Kinshasa, à l'époque l'université de Luvanium. Et ceux qui étaient du côté de l'Est, par exemple, les Katanga, les Bukavu, se retrouvaient aussi à l'université de Lubumbashi, et voire même aussi à l'université de Kisangani. Cela était fait de manière à ce que les élites soient formées par les élites aussi. Actuellement, la vie telle qu'elle se présente, pour répondre à la classe, il faut être universitaire et dehors. La raison pour laquelle aujourd'hui tout le monde veut aller à l'université.
Alors c'est vrai que tout le monde tient à aller à l'université, mais dans quelles conditions, Tati? Est-ce que vous pouvez au moins nous faire une idée sur les préalables que doivent réunir les promoteurs avant d'ouvrir une université en République démocratique du Congo?
J'étais sur ce plan que toutes les personnes que nous avions interviewées à Kinshasa approuvent l'initiative du ministère de l'enseignement supérieur et universitaire. Pour répondre maintenant à votre question préoccupation subsidiaire, la première condition exigée est celle d'avoir un personnel académique propre, des bâtiments pouvoir abriter les auditoires et les bureaux du personnel enseignant avec bibliothèque spécialisée par faculté des laboratoires. S'il faut faire allusion à toutes ces conditions, JR, on serait tenté de fermer au moins 90% des universités au lieu des 30 comme le préconise le ministère des tutelles. Écoutez les points de vue de cet étudiant.
Les cas de Kinshasa, nous avons vu des images du coin reculé où on a vu des auditoires à 2 bancs, 3 bancs. Auditoires, il n'y a même pas de bancs. Non, là, c'est là où nous lui donnons raison. Dans des grandes villes, ce n'est pas possible qu'on ait des universités et dans des installations où il n'y a même pas de bancs. Non, là, on ne peut pas accepter. Mais nous défendons ici les gens qui sont dans les milieux plus reculés. Là, nous disons, là, c'est à l'État maintenant, lui le ministre, c'est lui le responsable qui doit d'abord, avant de fermer, trouver des solutions pour les gens qui sont déjà là. Supposons quelqu'un qui est déjà en 3e grade. Et vous venez comme ça, vous voulez fermer l'université ou l'institut supérieur. Maintenant, ce monsieur, sa famille a supporté depuis la première année, il se retrouve en 3e. D'un coup, comme ça, vous voulez fermer. Non, donnez d'abord la solution.
Voilà, il y a boire à manger, chacun tire les draps de son côté. Voilà, donc est-ce que nous pouvons avoir aussi une idée sur le nombre des universités assez supérieures qui seront fermées?
En fait, cette mesure est l'aboutissement d'une démarche entreprise par les ministres de l'ESU. Elle avait débuté par une rencontre avec le chef des établissements privés de ce secteur à l'ISP Gombe. Selon nos sources, au total, 110 instituts supérieurs et 18 universités de l'intérieur et de la capitale sont visées par cette décision. D'ailleurs, au cours de nos investigations, il y a quand même hier des personnes qui sont parfaitement d'accord sur cette décision du ministre de fermer les universités qui ne répondent pas aux normes. À en croire ces quelques personnes, dans un pays organisé, on ne peut pas se permettre de créer une université comme si on ouvrait une boutique. Écoutons l'un d'eux.
Franchement, je regrette qu'il s'est réveillé trop tardivement. Il aurait pu le faire depuis très longtemps, si pas ses prédécesseurs auraient pu le faire. Parce que les universités ne doivent pas être semblables à des ligablos. Un individu qui fonctionne quelque part dans un truc qui faisant semblant d'université. Quand on le chasse pour des raisons de mégestion et de mauvaise conduite, il va créer une autre université où il ouvre même la faculté de médecine pendant qu'il n'a pas un seul professeur pour assumer les cours dans cette faculté-là. Et pas de clinique universitaire. Comment est-ce qu'on peut former un médecin sans clinique universitaire, sans professeur propre? Parce que tous ces professeurs qu'on prétend être les mêmes, soi-disant qu'ils viennent de l'université, mais ils sont à temps plein à l'université. Comment est-ce qu'ils peuvent justifier leur contrat avec eux et ils les utilisent à quel moment? Ça, c'est l'organisation même de la cité. Et c'est de là qu'il doit découler tout ce qu'il y a comme développement, disons. Mais quand on doit être en train de jouer avec la base d'un développement, et on dit parce qu'il y a une demande, mais je me demande cette demande, pourquoi faire? Et vous savez ce que cette demande-là donne en définitive sur le terrain. Si aujourd'hui on parle de la baisse de la qualité de notre enseignement, c'est beaucoup plus depuis qu'on a commencé à ouvrir ces soi-disant universités privées. Et quand nous parlons de privé, il y a privé et privé. Nous savons qu'il y a des privés qui restent en des conventions avec l'État. Ça, on sait qu'il y a assez de sérieux, parce que nous ne pouvons pas mêler les facultés catholiques, par exemple, dans cette histoire des privés. Et on sait quelle qualité d'hommes sortent de là. Mais quand vous ouvrez des ligablots du genre Belle Campus et qu'on sort, donc on ne peut pas appeler ça privé. Et c'est des choses à fermer, et on devait les avoir fermées depuis il y a des années.
Bah disons, ça c'est un auditeur qui l'a dit, ce n'est pas nous. Je crois que nous aurons beaucoup plus de précisions auprès de notre invité, Dr Machako Mamba, ministre de l'enseignement supérieur et universitaire. Tatima Poukou, merci d'avoir été des nôtres et à très bientôt.
Merci JR.
Okapi Action réfléchit avec vous aux problèmes de l'étudiant congolais. Des campus de Kinshasa à l'UNILU en passant par l'UNIKIS et toutes les universités et instituts supérieurs du pays, les étudiants s'expriment en toute liberté. Le rendez-vous de l'enseignement supérieur en République démocratique du Congo est tous les mercredis dans Okapi Action à partir de 10h, heure de Kinshasa.
Docteur Machako Mamba, vous êtes ministre de l'enseignement supérieur et universitaire en RDC. Vous êtes en ligne pour intervenir au cours de cette émission Okapi Action, le magazine de la vie des Congolais au quotidien. Bonjour.
Bonjour.
Alors aujourd'hui, vous réveillez de votre sommeil, selon le propos d'un auditeur, pour fermer des universités. Et qu'est-ce qui motive votre décision?
Bon, merci beaucoup. Je voudrais d'abord vous remercier pour l'attention que vous portez à l'enseignement supérieur universitaire et remercier tous les intervenants qui ont eu des mots justes pour décrire la situation que nous vivons et surtout pour cette vision qui rencontre celle du gouvernement à travers le ministère de l'enseignement supérieur pour mettre de l'ordre afin de trouver une conformité entre le souhait de cette jeunesse qui peut être formée correctement dans des institutions dignes de ce nom, de façon à ce qu'ils soient en mesure de se défendre dans le concert des nations. Je voudrais les rassurer que le ministre qui arrive à un poste, il assume le passif et l'actif. Nous constatons effectivement que certaines institutions auraient pu ne pas être autorisées à commencer et celles qui ont commencé avec sans autorisation, certaines ne remplissent pas les conditions pour continuer, c'est ce que j'ai dit, à donner l'illusion de former une formation de jeunesse et donc en fait du coup faire perdre à cette jeunesse un temps précieux. Parce que le temps qui passe ne revient pas. L'essentiel, je pense que c'est une prise de conscience, pas seulement des dirigeants, mais également de notre jeunesse et des parents, pour que l'université de demain, quand je dis université, c'est avec l'ensemble des instituts supérieurs, qu'ils soient pédagogiques et techniques, à côté des universités, des instituts facultaires, l'essentiel est que demain nous puissions voir progressivement dans notre pays des institutions qui répondent aux vœux de la jeunesse, qui répondent aux vœux de la mondialisation. Et ce processus, nous le ferons en concertation. Il n'y a rien qui va être décidé comme ça par dictature. Je pense que nous procédons par cette méthodologie qui consiste à palper les réalités du doigt, à montrer à l'opinion ce que nous voyons, on le voit en même temps qu'eux, et en fait à ce moment-là, les décisions qui devront suivre devraient être des décisions logiques sur base des éléments concrets qui montrent et qui doivent éviter l'arbitraire. On n'est pas là pour dire on n'aime pas tel, on ferme son institution. Nous sommes là pour protéger aussi la jeunesse lorsqu'elle est prise en otage par différentes techniques, par l'un ou l'autre promoteur, mais qui ne tient pas compte finalement des critères pour parler d'une université, d'un institut supérieur dans notre pays.
Alors 110 instituts supérieurs et 18 universités de l'intérieur et de la capitale sont visées par cette décision.
Oh non, parce que nous avons plus de 1000 universités, instituts, tant publics et privés dans notre pays. J'ai dit bien plus de 1000. Et donc, la mesure, lorsqu'elle va être appliquée, et concernera un plus grand nombre que ça, peut-être ce chiffre 5 fois plus. Parce que, comme un des interlocuteurs l'a rappelé, nous n'avons pas suffisamment de professeurs, et ceux-là ont vieilli, nous l'avons dit, 90% de ces 1000 instituts universitaires fonctionnent dans des bâtiments de l'école primaire et secondaire, donc n'ont pas de bâtiments propres. Or, avoir des bâtiments, c'est un des critères de viabilité. Pratiquement, fonctionne sans bibliothèque, sans matériel didactique, c'est un troisième critère de viabilité. La plupart ne remplissent pas ces conditions. Et enfin, on ne peut pas accepter qu'on réduise l'université, les instituts, à réunir seulement les étudiants dans n'importe quelle condition, à prendre leur argent, et puis finalement donner des diplômes de complaisance. Nous devons construire une vraie université, de vrais instituts. Nous devons réorienter je donne un exemple simple. Lorsque on voit le nombre de lacs que nous avons et de rivières qui sont pleines de poissons, est-ce que c'est un institut supérieur de pêche qu'il faut créer dans ces provinces ou bien c'est un institut supérieur pédagogique? Donc, c'est en fait nous sommes arrivés à l'heure du choix. C'est-à-dire que les institutions, nous essayons de les mettre en adéquation avec les ressources de l'environ ou de la province, de façon réellement que les cadres que l'on va fermer ne soient pas des cadres à la maison. Donc, l'adéquation entre la formation et l'emploi, ça va être l'élément de base qui va nous guider dans la restructuration qui est en train de se mettre.
D'accord. Oui, Excellence, pour éclairer en tout cas définitivement la lanterne de nos auditeurs et surtout permettre à ce que les étudiants qui nous suivent en ce moment, parce qu'ils sont nombreux à travers le pays, nous avons déjà eu à comptabiliser un grand nombre de réactions avant même cette émission, peut-être revenir un peu sur les critères de viabilité. Ces critères sont au nombre de combien, des critères de viabilité retenus pour qu'un établissement puisse réellement échapper à cette épée de Damoclès du ministère de l'ESSU?
En fait, les critères, d'abord sont des critères de l'UNESCO, et des critères que notre pays a adoptés, ils se regroupent en 4 rubriques. Le premier et le plus important, c'est d'avoir un corps académique propre, avec au minimum 3 professeurs par institution qui veut commencer. Et donc, des gens qui auront de professeur ordinaire, 3 professeurs. Chaque institution peut essayer d'examiner, vous verrez que 9/10 ne remplissent pas déjà ce premier critère. Le deuxième critère, c'est d'avoir des bâtiments propres. Aujourd'hui, plus de 90% des instituts et universités fonctionnent dans les écoles primaires et secondaires. Quand on fait une classe d'une école primaire, ce n'est pas l'équivalent d'un auditoire. Donc les critères sont différents et on peut donc vite comprendre là aussi que ce critère, qui est un critère majeur, manque à beaucoup d'institutions. Le troisième groupe de critères, c'est avoir une bibliothèque. Ce n'est pas avoir une salle où on accumule les TFC, les travaux de fin de cycle, parce que souvent quand vous demandez à la bibliothèque, on vous montre souvent une salle où on accumule ses papiers, mais une vraie bibliothèque et avec une salle informatique et avoir ce instrument dans les secteurs techniques des laboratoires et d'autres instruments qui permettent la professionnalisation, commencer à préparer l'étudiant pour que demain, quand il termine, il va travailler, qu'il ne découvre pas l'équipement qu'il va utiliser au travail. Il faut déjà qu'il ait une idée sur l'outil qu'il peut utiliser. Là aussi, dans plus de 90% de cas, cela manque. Et enfin, c'est les étudiants. Mais n'est pas étudiant qui veut. Il y a des critères d'âge, il y a des critères de diplôme. Et c'est pour cela, vous verrez, avant de donner un diplôme, on fait ce qu'on appelle le cursus de la scolarité. Est-ce qu'il a fait son école primaire, son école secondaire? Est-ce qu'il a terminé? Il a eu quel pourcentage? Vous vous rappelez une période où ceux qui avaient moins de 55% n'entraient pas dans les instituts entre 55 et 59, l'université à partir de 60. Donc même à ce niveau-là aussi, il faut instaurer des critères. Mais on sait qu'il y a des étudiants aujourd'hui qui n'ont même pas de diplôme d'État. Et on vient de découvrir, on se rend compte que certains étaient inscrits sur base du bulletin là de l'inspecteur, et on sait que des réseaux mafieux avaient mis en place une imprimerie pour ce type de bulletin, et certains vont devenir gradués sans qu'on ait la preuve qu'ils avaient réussi les examens d'État. Donc c'est pour vous dire, même chez les étudiants, il ne faut pas dire je suis jeune, j'ai mon œil sorti sur le bulletin de l'inspecteur. Là aussi, il y a eu beaucoup de dérapages. Donc c'est pour vous dire que nous allons procéder. C'est un élément important que j'ai à préciser. Nous allons procéder à la vérification de ces quatre rubriques dans toutes les institutions, tant publiques que privées, parce qu'on sait aussi que le public s'est mis à faire des extensions qui ne répondent pas aux critères. Et donc là aussi, il ne faudrait pas aujourd'hui qu'on se trompe en disant qu'il n'y a que les privés qui vont être contrôlés. Nous allons contrôler les publics et les privés, en commençant par l'université de Kinshasa, l'université de Lubumbashi, l'université de Kisangani, parce que là aussi on a vu des dérives, des dérapages énormes. Aujourd'hui, la faculté de droit, par exemple, à l'UNIKIN, a 8000 étudiants pour une université qui était conçue pour maximum 5000 étudiants, l'ensemble de l'université. La faculté de médecine a 6000 étudiants. Beaucoup d'étudiants suivent les cours en dehors des auditoires.
Oui, ben,
j'ai visité les auditoires de la faculté de droit qui sont en délabrement. Ils ont été obligés de mettre deux gonds, les cours avant midi, les cours du soir.
Donc, je peux
vous dire qu'on a tellement pris de facilité dans l'enseignement supérieur. Aujourd'hui, il n'y a aucune institution qui est épargnée. Et donc, l'État, pour la protection de la jeunesse, se doit de pouvoir passer au peigne fin l'ensemble des institutions sans exception.
Oui, et docteur Masako Mamba, nous rappelons que vous êtes ministre de l'enseignement supérieur universitaire, et nous rappelons nos numéros de contact pour ceux-là qui nous suivent et qui aimeraient bien intervenir au cours de cette émission. Le 081-070-20-50 pour les SMS et le 081-890-63-94 pour les appels en direct. Nous avons les deux premiers appels en direct. Monsieur Guy, vous nous appelez de Mbandaka. Bonjour Guy.
Ah oui, bonjour.
Vous nous appelez de Mbandaka, quelle est votre préoccupation?
Ah oui, je vous appelle de Mbandaka, je suis étudiant à l'université de Mbandaka ici. Et j'interviens par rapport à ce que le ministre a dit. Je voudrais ici parler en termes des universités qui sont à l'intérieur. Il y a de ces élèves, il y a de ces gens qui sont à l'intérieur, et ces élèves qui ont terminé leur étude, ils ont terminé et qui veulent accéder aux études universitaires. Eh bien, faute de moyens qui fait qu'ils soient en train encore de traîner. Eh bien, grâce à l'ouverture maintenant de ces universités qui leur permet maintenant de pouvoir accéder quand même aux études universitaires, fermer les universités, soit de l'intérieur, serait chercher à bloquer l'opportunité à ces étudiants de pouvoir s'épanouir dans le monde universitaire. Vous avez parlé de démographie. Donc, vous remarquez que même s'il faut laisser quelques universités, ça ne va pas contenir tous ces étudiants qui voudront aller vers ces centres universitaires. Donc moi, je crois que il serait mieux pour le ministre de pouvoir chercher à relever les niveaux, ou bien relever les niveaux alors de ces centres universitaires ou ces universités, et que de pouvoir fermer ça. Donc ça, c'est désorienter alors ceux qui ont l'envie ou ceux qui ont le cursus normal et qui veulent continuer leur études universitaires. Moi, je crois que ça, c'est bloquer à ces gens-là l'opportunité de pouvoir continuer l'étude universitaire. Et puis de les orienter, même peut-être dans l'armée ou alors qu'on sort.
Voilà.
En faisant mon intervention,
voilà, Guy Dembandaka, merci. Nous tournons du côté de Jacques Kananga. Monsieur Jacques, vous êtes à Kananga, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste. J'interviens vraiment avec énergie à ce que monsieur Lass vient de dire maintenant, vraiment. Nous, nous sommes sûrs et certains que ceux qui octroient vraiment les agréments pour qu'on ait de multiples universités là, de multiples institutions, des institutions supérieures là, ce sont les ministres. Ce sont là l'État vraiment qui octroie vraiment ces choses là aux gens. Maintenant, il y a des faillites. Regardez par exemple à l'UQAM là. Dernièrement, les professeurs ont grévé. Voilà, c'est l'université en place. Là, il fallait équiper d'abord. Quand les professeurs grèvent pour 2 ou 3 mois, vous pensez que les étudiants qui vont sortir de cette année-là seront de quelles compétences, par exemple? Mais aujourd'hui, si on dit que non, on va faire on doit fermer d'autres institutions supérieures, mais c'est faux. Au lieu de fermer, moi, je demande, par exemple... Trouvez quand même les conditions améliorées, encourager les initiatives de ceux qui ont implanté quand même les institutions, par exemple, ici chez nous. Moi, je suis responsable, par exemple, de l'IFTEM Canan. Voilà. Si je suis bloqué aujourd'hui de faire la licence, c'est parce qu'il n'y a pas la licence sur place ici. Mes parents se sont mobilisés avec les fonds qu'il y avait. Nous avons fait quelque chose quand même au niveau des graduats. Mais nous nous bloquons pour aller faire la licence. C'est parce que la licence...
Voilà, Jacques.
Si on va mener des enquêtes, nous ne pensons pas que c'est tous les étudiants qui seront des faux citoyens. Non, mais il y a aussi des étudiants là qui
des exceptions ne manquent pas.
Nous, vraiment, monsieur le ministre Machakou, au lieu d'abîmer, de faire l'enquête pour arrêter quelqu'un qui est, par exemple, en troisième graduat, si vous allez faire que non, on arrête son institut aujourd'hui, il sera où? Et comment sa vie vraiment, ça sera comment? Nous nous demandons vraiment à l'État de raisonner bien.
Mais voilà,
d'arrêter d'autres institutions, il serait mieux de voir dans quelles compétences, dans quels critères élevés quand même, et stopper quand même avec d'autres agréments, parce que même si il y a même d'autres institutions qui sont en train de mener des démarches.
Voilà, on va résumer votre préoccupation, Jacques. Jacques, on ne va pas continuer
au gouvernement.
Oui, s'il vous plaît, Jacques.
De voir quand même.
Oui.
Mener des enquêtes.
Oui, Jacques, nous rappelons que. Allô, Jacques.
Orientation des étudiants. Un étudiant qui a fait par exemple la coupe coutume, et vous le verrez en médecine.
Mais voilà, on est obligé, Jacques, d'interrompre un peu votre intervention. Jacques, là carrément, nous allons quand même accorder la parole à notre invité pour expliquer, pour éclairer un peu la tête. Monsieur le ministre, Excellence Docteur Macha Komamba, vous êtes avec nous, vous avez suivi les deux interventions. D'abord, la première, celle de Guy de Mandaka, ainsi que celle de Jacques Kananga. Les deux demandent à ce que d'abord que vous employés à travailler sur le relèvement, donc il faut relever plutôt les niveaux de ces centres au lieu de les fermer.
Oui, merci beaucoup. Je pense que en fait les deux intervenants ont mal compris. Vous ne pouvez pas redresser un système si vous n'avez pas posé un diagnostic correct. Et si le diagnostic vous montre que les failles sont énormes, vous devez d'abord évacuer, par exemple, c'est une maison qui va s'écrouler, vous évacuez les gens, vous cassez avant de pouvoir reconstruire. Je voudrais réaffirmer primement le principe, l'État a le devoir de protéger sa jeunesse. Le deuxième principe, c'est l'État ne peut pas fermer les yeux devant manifestement un système qui est malade et qui n'amène pas la promotion de la jeunesse. Concernant la ville de Mbandaka, par exemple, j'ai discuté lors du dernier séjour du chef de l'État à Mbandaka avec les autorités académiques qui ont pris l'hôpital général provincial du ministère de la Santé et en ont fait le centre hospital universitaire. Mon interlocuteur doit savoir que ce n'est pas ça une clinique universitaire. Cet hôpital est à des missions spécifiques en tant qu'hôpital général de référence de la province dans la pyramide des soins du ministère de la Santé. Et donc, aujourd'hui, on a commencé une faculté de médecine sans s'assurer qu'on a d'abord les laboratoires de base de la faculté de médecine et demain, arriver à avoir une clinique universitaire. Est-ce que vous pensez que sans avoir résolu le problème des laboratoires et puis demain des cliniques universitaires, nous aurons rendu service à cette jeunesse-là? Il est donc important que la jeunesse laisse aussi ceux de leurs aînés qui ont une expertise, une vision dans ce domaine-là, de pouvoir créer les conditions pour mieux les former. Ça, c'est un premier point. Deuxièmement, la province de l'Équateur, on voit ses richesses, la forêt, on voit les cours d'eau. Quelle formation nous pouvons mettre en place pour que ceux qui sont formés puissent participer à la transformation et à la promotion des ressources naturelles de la province de l'Équateur? Voilà dans quel sens nous allons nous orienter. Concernant notre ami de Kananga, je connais très bien l'ISTEM Kananga. D'abord, je voudrais lui rappeler que l'ISTEM n'est pas fait pour produire des licenciés. L'ISTEM a été mis en place pour pouvoir améliorer le niveau des infirmiers. C'est pour ça qu'on parle des infirmiers A1 au lieu de A2, ceux qu'ils ont produits par les items, pour qu'ils contribuent à l'amélioration des soins de santé. Et si vous pouvez vous imaginer, tous les items commençaient à former les licenciés, mais nous allons nous retrouver non pas en train de soigner les malades, d'améliorer la qualité des soins, mais en train de voir les gens vieillir dans les institutions supérieures. Les items, nous devons les équiper pour qu'ils produisent des gradués. Telle est la mission première qui parvienne à aller renforcer la qualité des soins. La dérive maintenant où chacun crée son institution, il considère que le premier cycle n'est pas suffisant. On oublie le mot professionnalisation décidé depuis 1972. Je voudrais le rappeler à tous ceux qui parlent sans peut-être se rappeler même l'historique de la création des instituts supérieurs. Et de là, quand ils ont le deuxième cycle, ils veulent aller au troisième cycle. Nous allons nous retrouver non pas en train de nous occuper des malades, mais à nous disputer les titres de docteur en ceci, docteur en ceci à l'hôpital. J'en sais quelque chose et ce n'est pas ça, se préoccuper de la
vérité. Oui. Docteur Machako.
Donc, nous avons la volonté de restructurer le système au profit et de la population et de notre jeunesse. Et il ne faudrait pas que les gens s'enferment dans un système où ils pensent être aujourd'hui gagnants alors qu'ils sont perdants. Le rôle de l'État, c'est de rappeler, de montrer la voie pour que les gens gagnent et que la population, surtout la jeunesse, puisse se retrouver gagnante et non pas perdante.
Oui, nous avons un médecin en puissance, donc je voulais parler d'un étudiant en médecine, Emmanuel, qui nous appelle des Siro. Emmanuel, vous êtes à Isiro, bonjour.
Oui, bonjour, je suis étudiant.
Alors, on doit être précis et clair et net, donc, quelle est votre préoccupation?
Ma préoccupation est de savoir, par rapport aux critères que le ministre vient de rappeler, pour la viabilité d'une université. Notre université ici n'a pas de professeur propre, il n'a pas de bâtiment, et il n'y a pas de clinique universitaire répondant aux normes. C'est un hôpital appelé clinique de Louélé qui sert de clinique universitaire. Et depuis lors, la première promotion n'a jamais terminé et au début de cette année, les étudiants sont partis à Kinshasa, sur recommandation de l'honorable, je ne cite pas le nom, pour pouvoir continuer le deuxième cycle, parce que c'est une université qui est gérée par le père dominicain. Qu'est-ce que le ministre pense de cette université qui est salutaire pour nous, mais qui est de loin...
Qui éprouve énormément de difficultés.
Oui. Voilà. Et puis, nous, on a souhaité que le premier cycle puisse être organisé et que le deuxième cycle... peut-être à Kisangani, qui est plus proche, ou à Kinshasa, sans condition de rétrograder les étudiants. Qu'est-ce que le ministre pense de cette université qui risque d'être fermée à cause des changements à la tête de couvent des pères dominicains? Le recteur, qui était le provincial, a été changé. Alors, qu'est-ce que le ministre pense de cette université?
Voilà, la question, elle est très précise, monsieur le ministre, au regard des critères que vous avez évoqués, des critères de viabilité. Là, Emmanuel vient de se rendre compte que son institut est loin, vraiment, d'échapper à cette épée de Damoclès du ministère.
Je pense que je vais le remercier pour son intervention. l'intervention et l'attention qu'il a accordé aux critères. J'ai eu la chance toujours dans la suite de la délégation du chef de l'État de voir maintenant qu'on peut faire en un jour Kisangani et Isiro en un jour. Et donc, il y a des pistes de rechange qui se font. Je voudrais rappeler que jusqu'aux années 80, nous n'avions que 3 facultés de médecine dans ce pays. Maintenant, je suis en train de regarder les statistiques. Nous avons plus de 78 facultés de médecine, dont 9 dixièmes ne remplissent aucun critère. Alors, si nous mettons en tête le bien de la population, allons-nous continuer à sortir des médecins, et l'ordre de médecins, vous savez, l'a refusé déjà de reconnaître le diplôme de certains lauréats, et je pense l'ordre de médecins a des raisons, parce qu'il connaît les critères. Est-ce que nous allons continuer à laisser des docteurs 7 ans, au bout de 7 ans, leur dire non, on ne reconnaît pas votre diplôme, ou bien nous devons avoir le goût de dire, voici, vous ne remplissez pas les critères, nous pouvons vous orienter dans telle direction, ou s'il y a des possibilités d'avoir des moyens de diriger une vraie faculté de médecine avec les laboratoires premier degré et les cliniques universitaires dans un deuxième degré, à ce moment-là, on est sûr qu'on a formé les jeunes hommes correctement et qu'on ne va pas mettre à disposition de la population des éléments dangereux. On peut s'amuser dans beaucoup de choses, mais dans le domaine de l'enseignement, les Congolais sont partis trop loin et je pense, et je m'adresse à nos frères qui sont intervenus de Kananga, de Mbandaka, nous ne pouvons pas, parce qu'on s'est trompé, dire non. Il vaut mieux continuer à se tromper que de dire stoppons le gâchis ici et repartons sur de bons pieds. Je suis heureux du raisonnement de notre ami Dissiro. Nous allons travailler dans le sens de trouver des solutions qui permettent de ne pas léser les étudiants, mais de remplir les conditions pour le redressement du secteur. C'est pour l'intérêt de la jeunesse et pour l'intérêt le plus important de notre population.
Il y a une dame qui nous appelle, elle s'appelle Marie Otazi à Kinshasa. Marie Otazi, bonjour.
Oui, bonjour.
Alors, vous voulez intervenir, quelle est votre préoccupation?
Ma préoccupation est la suivante. Est-ce que le gouvernement ne peut-il pas prendre en charge ses compétences? Parlons par exemple des faits qui sont en train de dire suspendre ou bien fermer les universités
non viables.
Pendant qu'ils étaient entre ces universités, ouvraient leurs portes, l'État a permis ces ouvertures. Aujourd'hui, qu'il y a tant des étudiants, je ne suis pas contre. Moi, je suis à l'université de Kinshasa, à la faculté des droits. Si je prends, par exemple, mon université à moi, où il y a des étudiants, nous sommes tellement nombreux que nous n'avons pas les
places. Monsieur le ministre a évoqué 8 000.
En charge ses compétences et puis donner des agréments après avoir vérifié tout ce qu'il faut vérifier, tous les critères que le ministre venait à peine de nous citer. Est-ce que l'État ne peut-il pas faire ça avant, au lieu aujourd'hui d'intervenir pendant que les étudiants sont déjà là et que les choses avancent? On a déjà des diplômes qui sont sortis de ces universités-là qu'on veut aujourd'hui fermer.
Marie Octavie, gardez l'écoute et restez branchée sur la fréquence de la paix au CAPI et dans cette émission au CAPI Action pour avoir la réponse à votre préoccupation. Nous avons également Emmanuel à Kinshasa. Emmanuel, bonjour.
Bonjour.
Vous nous appelez de Kinshasa. Quelle est votre préoccupation rapidement?
Oui, je voudrais demander à M. le ministre s'il sera capable de mener à bien ces décisions qu'il est en train de prendre sans pression. Parce que nous savons que dans ce pays, lorsqu'on commence quelque chose, il y a toujours des pressions politiques, etc. Et je pense que je vais l'applaudir s'il parvient à fermer effectivement certaines facultés de la ville de Kinshasa ici. Je crois que ces services spécialisés savent très bien de quelles facultés dont je parle, des facultés de médecine. Parce que ce que nous trouvons sur le terrain, c'est déplorable, avec des médecins assassins, c'est vraiment grave.
Voilà. Donc nous avons deux préoccupations, Marie Otazi, qui normalement évoque l'aspect agrément qui devait être fait en amont, et Emmanuel Akinshasa de renchérir pour ajouter quand même un élément sur la pression qu'on peut, ou l'interventionnisme qu'on peut s'attendre dans cette opération initiée par Monsieur le ministre. Dans quelques poussières de secondes, nous allons devoir suivre le flash d'information. Et là, carrément, nous avons beaucoup de réactions, en tout cas beaucoup de réactions des auditeurs, Monsieur le ministre. Nous allons encore vous garder pour prendre deux ou trois petites minutes afin que vous répondiez à toutes les préoccupations des auditeurs. Mais nous rappelons que le numéro de standard, c'est le 081-890-63-94 pour les appels en direct. Et ceux-là qui aimeraient bien nous envoyer le SMS, ils doivent le faire au 081-070-2050. On n'a pas oublié ceux-là qui nous suivent sur les nets. Écrivez-nous à action@radiocapi.net. Nous parlons du gouvernement qui va bientôt fermer les établissements non viables. Reste avec nous, il est 11h à Kinshasa. C'est l'heure de flash d'information. Universitaire non viable. Nous avons en ligne notre invité, Dr Mashako Omamba, ministre de l'enseignement supérieur et universitaire. Monsieur le ministre, avant le flash d'information, il y a eu deux interventions. La première, celle de Marie Otazi, qui nous a appelé de Kinshasa et depuis l'université de Kinshasa, ainsi que Emmanuel à Kinshasa, la première intervention tournée autour de cette mesure à prendre en amont, c'est-à-dire avant d'accorder les agréments. Et la deuxième concernait les pressions ou l'interventionnisme que peut normalement revêtir votre opération.
Merci beaucoup. Répondant à la première intervention, effectivement, normalement, avant de donner un agrément lorsqu'un dossier est introduit, il y a d'abord une visite de terrain pour voir si les conditions que j'ai citées sont réunies. Lorsque cela est fait, on donne une autorisation provisoire. Et après 3 ans, on peut donner un agrément provisoire. À ce moment-là, c'est l'étape qui est autorisée par le ministre. Et enfin, lorsque toutes les conditions sont réunies, qu'on voit qu'il y a une durabilité de l'action, on peut passer à l'agrément et ce document est signé par son excellent monsieur le président de la République. Alors la première surprise, c'est de voir que même des institutions publiques ont ouvert des extensions sans se préoccuper de tous ces niveaux d'autorisation. Et deuxièmement, chez les privés, autant il y a ceux qui ont l'autorisation définitive, d'autres qui ont l'autorisation provisoire, mais un bon nombre aussi qui ont ouvert un achèquement sans se référer à quoi que ce soit. Et c'est pour ça qu'il est important que les gens comprennent que le désordre, c'est pas seulement le privé, même aussi le secteur de l'enseignement public. Et donc, madame, à côté des règles qui ont été respectées dans certains cas, aujourd'hui, plus de la moitié des institutions, tant publiques et privées, pratiquement se sont passées de cette réglementation. Il est important qu'on le sache et que, en fait, le peuple congolais décide, c'est ce que le propose le gouvernement, de ne pas fermer les yeux devant la violation manifeste et continue de ces principes finalement qui sont les éléments de protection pour la formation de notre jeunesse.
Alors parlons de la pression.
Oui. Deuxièmement, je remercie le monsieur Manuel parce que lorsqu'il évoque le cas de médecins assassins, je peux vous dire que nous avons échangé des correspondances avec le ministre de la Santé, notamment j'ai vu dans la commune de Mongafura, on nous écrit en disant il y a des médecins qui sont en train de tuer, vérifier, ils ont été formés où. J'ai pris le courrier, je l'ai adressé au ministre de la Santé. C'est pour vous dire, effectivement, aujourd'hui, si nous ne faisons pas attention, c'est des faux médecins, de faux infirmiers, de faux licenciés en droit que nous mettons sur le marché, de faux ingénieurs, et ça devient dangereux pour tout le monde. Et donc, mais la pression ne peut pas manquer parce que c'est devenu un vrai business. Et quand vous touchez au business, de certains, vous voyez des pressions de toutes parts. Mais c'est au peuple congolais, avec leurs dirigeants, de savoir si nous décidons de protéger la population. Nous devrons, ensemble, pas seulement le ministre, avec l'appui de la société civile, avec l'appui de chaque famille, nous devons arriver à faire face à ces pressions de façon à ce que nous puissions. Ça va être difficile, j'en conviens, mais si nous n'affrontons pas ces difficultés aujourd'hui, demain risque d'être, chaque jour qui passe, chaque année qui passe, la situation va être encore plus difficile, et à ce moment-là, c'est en fait le désordre qui sera devenu la loi, et la loi aura été mise dans un coin. J'ai encore l'ambition de penser que le peuple peut avoir un sursaut de vouloir protéger sa jeunesse, pour créer les conditions d'autoprise en charge par nos enfants et petits-enfants qui sont correctement formés pour déjà l'ensemble du secteur, tant du public que du privé.
De Dr Masako Mamba, là, avant de prendre deux autres réactions, il y a une préoccupation qui me revient, qui me passe à l'esprit. En 2006, Théo Barouti, alors ministre de l'enseignement supérieur et universitaire, parce que je lui ai ministre honoraire, il a octroyé des agréments définitifs, en tout cas à plusieurs établissements et centres universitaires. Est-ce qu'aujourd'hui, si jamais ces centres ne répondaient pas aux critères de viabilité, seront-ils frappés?
Bon, je pense que la loi est au-dessus de tout le monde. J'ai vu effectivement qu'en 2006, il y a eu beaucoup d'agréments définitifs qui ont été donnés. Mais j'ai vu par exemple à Kinshasa, une institution où on me montre des auditoires, il n'y a pas de banc, il n'y a pas de pavement, il n'y a pas de pavement. L'eau est en train de sourdre du sol et il y a un agrément définitif. Alors, est-ce que ce n'est pas un cas de conscience? C'est comme personne n'est au-dessus de la loi. Je pense que c'est la loi qui devra s'imposer, cela tant à Kinshasa qu'en province. Parce que, justement, le délai avec lequel certains agréments définitifs ont été donnés, sans qu'il y ait une enquête, parce que avant, pourquoi on donne un agrément provisoire? C'est pour permettre de voir si les conditions se réunissent, et avant qu'on ne fasse signer l'agrément définitif, on doit y adjoindre un rapport. Une enquête qui montre que l'institution, réellement, non seulement les conseils qui avaient été réunis au regard de la loi sont maintenus. Je peux vous dire aujourd'hui que beaucoup d'institutions qui ont l'agrément définitif, et c'est bien affiché, quand vous arrivez, c'est qu'il vous frappe agrément définitif de telle année, vous regardez les critères de viabilité et vous regardez
Excellence, c'est un grand travail. Vous allez le faire dans quelle échéance? Pas cette année, parce que la lettre touche déjà à sa fin, vous allez le faire pour l'année académique qui va suivre?
Je pense que l'année académique en cours doit continuer et se terminer normalement, mais nous devrons commencer la nouvelle année dans des conditions différentes.
Donc pendant les vacances, vous allez profiter de mener des enquêtes et de frapper au même moment?
Les enquêtes, nous les ferons déjà avant la clôture de l'actuelle année académique.
Voilà, nous avons deux dernières réactions avant de vous libérer, Excellence. Nous avons Nana qui nous appelle de Colésie. Bonjour Nana.
Bonjour, merci, bonjour.
Alors, quelle est votre réaction, Nana?
Bonjour.
Alors, là, il faudrait quand même que vous éteigniez votre poste récepteur, et ça fait un mauvais retour. Quelle est votre préoccupation?
Je disais ceci. En tout cas, nous donnons raison à cette initiative. Sinon, nous nous rendons compte que d'ici 3 ans, nous ne savons pas ce que nous serons dans cette République du Congo. Sinon, auparavant, nous avons terminé il y a 3 ans. Mais nous venons de nous rendre compte que les étudiants qu'on nous envoie maintenant sur le lieu de stage, les étudiants qui font les ITM et la médecine, nous, quand nous terminons, en 3e graduat, on savait que l'étudiant est capable de. Mais à présent, vous vous dites que cet étudiant qu'on vient de nous envoyer est capable de, mais c'est le contraire.
Donc le niveau est trop bas.
De, mais en pratique, en tout cas, ce n'est rien. Ce sont des étudiants qui ramassent des diplômes par-ci, par-là. Bon, on ne sait pas s'ils avaient terminé ou pas.
Oui, donc si je comprends bien, Nana. Voilà, Nana, donc vous appuyez l'initiative du ministre.
En tout cas, nous appuyons.
Merci beaucoup. Alors, nous avons Charles Mbandaka. Charles, quelle est votre préoccupation d'une manière précise?
Oui, allô, c'est Chaco, mais non Charles.
Chaco, vous êtes en Mbandaka.
Oui.
Allez-y rapidement, parce que nous n'avons que 3 minutes avant de proposer le point hebdomadaire de la Monique, donc le point de presse hebdomadaire de la Monique.
Ok, je vais dire ceci. Par rapport aux décisions du ministre, il a pleinement raison et puis il a tort. Pourquoi j'ai dit ça? J'ai dit il a raison parce que les universités et les instituts supérieurs qui ne répondent pas aux normes du ministère doivent être supprimés. Alors, pour en ce que j'ai dit qu'il a pleinement tort, c'est-à-dire, vous voyez, par exemple, à Ikela, il y a une université qu'on a implantée là, qui n'a pas aucun professeur, qui n'a même pas de chef de travaux. Alors, c'est le ministre qui a donné l'arrêté. Voilà.
Donc, on revient sur l'agrément.
L'arrêté.
Voilà, l'agrément. Chaque fois restez en ligne, vous allez suivre la réponse du ministre. Monsieur le ministre, l'implantation aujourd'hui des différents centres universitaires, des petits centres universitaires, n'est-ce pas là un facteur de développement comme le pensent certains observateurs?
Oui, si c'est un projet qui est bien pensé et où il y a une concordance entre la formation et l'emploi dans le terroir. Regardez par exemple le cas d'Ikela qui est cité par Chaco. Vous donnez un agrément d'une structure pratiquement qui n'a pas d'enseignants. Mais en fait, c'est la politisation. Et vous ne servez pas à ce moment-là la communauté. Et donc, nous devons arriver à un niveau où, avant de créer une structure, qu'on sache pourquoi on la crée et le produit qui va sortir de là va être utilisé par qui et où. Si on ne se pose pas ces questions avant de donner les autorisations, en fait, on va continuer à faire du populisme. Au niveau scientifique, à ce niveau-là, on ne peut pas faire du populisme. On ne peut pas en faire un élément électro pour dire je vous ai amené l'université ou l'institut. Et aujourd'hui, c'est un marché des dupes. Nous ne pouvons pas accepter que notre jeunesse, justement, soit l'objet du populisme et du marché des dupes. Et Nana a raison. Lorsque, aujourd'hui, vous devez vous imaginer que vous allez être soigné par des médecins, que l'ordre de médecin n'a pas reconnu, des infirmiers qui ne savent même pas, qui risquent de vous tuer dès la première élection, est-ce qu'on peut continuer à dire non, on a créé, ne touchez pas? Nous devons, en tant que Congolais, avoir le courage de regarder notre société, de voir le mal que nous avons créé et prendre cette décision courageuse ensemble. Et c'est là où j'appuie Nana et tous les autres, c'est ensemble, c'est pas le ministre seul, c'est nous-mêmes qui devons dire ça devient trop dangereux, nous sommes trop égarés, stoppons et essayons de voir comment nous pouvons réellement créer des conditions pour que la jeunesse qui va être diplômée soit une jeunesse capable d'être utile à elle-même, à la famille, à la nation, et que ce ne soit pas un danger pour la société. Aujourd'hui, dans bon nombre de cas, les diplômés universitaires et des études sont des dangers pour la société et ils ne vont pas être utiles à eux-mêmes, à leur famille. Nous ne pouvons pas continuer à produire un gâchis de cette nature et c'est ce pari justement qui est difficile, mais c'est à ce pari que nous allons en fait nous évaluer, nous tous, pas seulement le ministre, mais peuple congolais, société congolaise, sommes-nous capables de nous remettre en cause pour reprendre le chemin du progrès et ne pas entrer dans la politisation ou la criminalisation finalement d'un secteur noble parce que, je le rappelle, c'est lui qui forme les cadres pour l'ensemble des secteurs. Demain, nous serons ce que nous aurons fait de notre jeunesse qui sort des universités et des instituts supérieurs.
Donc nous retenons une chose, cette opération s'effectuera sans complaisance. Les écoles, les établissements, les centres universitaires et d'autres instituts supérieurs qui ne répondront pas aux critères de viabilité se verront être fermés. Donc c'est là, dixit docteur Machako Mamba, ministre de l'enseignement supérieur et universitaire. Nous allons dire comme les Américains, wait and see, si réellement cela sera respecté. Monsieur le ministre, nous vous disons merci d'avoir été des nôtres et surtout d'avoir accepté de rester avec nous pendant ce moment pour éclairer la lanterne de nos auditeurs et répondre à toutes les préoccupations des auditeurs qui ont voulu intervenir au cours de cette émission Okapi Action. Merci une fois encore et à la prochaine, Excellence.
Merci beaucoup. Comme l'autre Américain, on peut dire yes week-end. Nous le pouvons.
Voilà, merci beaucoup, chers auditeurs, à vous également, qui avez accepté de nous accompagner au cours de ce voyage à travers le pays, qui nous a amené tour à tour à Bunia, à Bukavu, à Kinshasa, ainsi que, à Kinshasa, voilà, c'est là où on s'est limité, avec la chronique étudiant. Nous prenons rendez-vous avec vous demain à la même heure, donc autour de 9h, 2 minutes, heure de Kinshasa, lorsqu'il sera 10h dans toute la partie est de la République démocratique du Congo pour un autre numéro de notre émission Okapi Action. Mimi Kindou avait assuré la deuxième partie de cette émission Okapi Action à la mise en onde. Et puis Tati Mapoukou, toujours derrière la baie vitrée, avait assuré la réalisation de cette émission coordonnée par Marcel Ngombo Mbala. Nounongoy et J.R. Lungembo prennent rendez-vous avec vous demain. Voilà, mesdames et messieurs, à présent, nous vous convions à suivre le point de presse hebdomadaire de la...